Merci beaucoup. Et si vous voulez bien, mesdames et messieurs, je vais un peu recadrer ce discours sur esthétique et l'art en reprenant les idées essentielles que j'ai avancées lors de ma dernière conférence. Vous avez remarqué que je n'ai pas voulu faire un traité d'esthétique, c'est-à-dire parler des conditions du beau, la façon dont on peut définir le beau, ou même dont le beau peut varier selon les sociétés, etc. Moi, j'ai voulu d'abord montrer que l'esthétique couvre un champ beaucoup plus large que celui de l'art, qui est fait pour, évidemment, donner l'esthétique. Et l'esthétique dont je parle, c'est avant tout un sentiment. Du reste, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un plaisir, c'est une admiration, mais dans le fond, c'est un sentiment assez difficile à définir et à reconnaître, encore que chacun d'entre nous l'éprouve dans de nombreuses circonstances. Alors, ce que j'ai voulu dire d'abord, c'est que ce sentiment, nous pouvons l'avoir devant des spectacles de la nature, nous l'avons souvent. J'ai cité Emerson qui dit que tout homme a la capacité, a assez de poésie pour être enchanté par les spectacles de la nature, la mer, l'océan, la montagne neigeuse. Tous ces spectacles peuvent nous donner un sentiment esthétique très fort. Aussi, si on prend la nature vivante, les vols d'oiseaux, le tourbillonnement des vols des étourneaux qu'a très bien décrit Lautré Hamon, les parures des paons ou d'autres animaux, les mouvements des félins, enfin, nous avons beaucoup de choses que nous trouvons belles, qui nous émeuvent esthétiquement. Alors, donc, l'esthétique est quelque chose de très général. Je me suis demandé même si il n'y avait pas déjà indifférencié à l'état latent un sens esthétique dans le monde animal, ou par exemple la beauté des parures des mâles qui veulent séduire les femelles pouvait être seulement réduite à la volonté d'accomplir l'acte sexuel, c'est-à-dire si on ne veut pas plaire, et plaire c'est donner un sentiment, une émotion esthétique. D'ailleurs, nous-mêmes, quand nous avons un rendez-vous galant ou amoureux, je me fais belle, elle se fait belle, on se fait beau. Bon, on veut séduire, mais on se fait beau quand même, d'abord, il y a quelque chose. Enfin, ceci est c'est une chose que j'ai voulu évoquer en préliminaire, et donc, c'est pour dire que j'ai parlé de l'esthétique aussi, parce que nous sommes dans un univers d'esthétisation généralisé. Et ça, on peut le voir avec que des œuvres qui ont pour finalité l'illustration religieuse, comme par exemple les peintures médiévales européennes jusqu'à Giotto, ces œuvres-là édifiantes pour les fidèles et que le peintre le faisait aussi avec sa foi. Aujourd'hui, pour nous, nous les voyons surtout esthétiques. Nous les voyons surtout pour leur beauté. Et du reste, c'est dès le début du XXe siècle qu'on a esthétisé des œuvres qui avaient une finalité magique ou religieuse. Ce qu'on appelait l'art nègre, c'est-à-dire les masques africains, qui ont une finalité magique ou religieuse, sont devenus des objets d'art que pour qui procure l'émotion esthétique, les parures que portaient nos ancêtres archaïques, les tatouages, les dessins, tout ceci, qui ont une finalité identitaire ou magico-religieuse, pour nous, ce sont des choses qui relèvent de l'esthétique. Et du reste, cela a signifié que l'art, en même temps, s'est autonomisé par rapport aux fonctions religieuses ou magiques qu'il pouvait avoir. Et donc, non seulement l'art, mais des objets qui n'étaient pas autant une finalité pratique, sont esthétisés, comme par exemple, nous avons commencé à esthétiser certaines machines, les locomotives anciennes, les locomotives à vapeur. Et il y a toute une esthétique de la société industrielle, des machines ou des objets industriels, avec le design, etc., qui s'est développé. Donc, il y a ce problème donc, de l'esthétisation. Et alors, je n'ai pas encore parlé de cette émotion esthétique, mais avant d'en parler, je veux évoquer l'acte que l'on appelle de la création artistique. Bon, ce mot de création, certains ne l'aiment pas, d'autres l'acceptent, mais enfin, disons, la création de... Attendons de le mettre un C majuscule, mais enfin, c'est un acte qui peut d'ailleurs être d'imitation. Un peintre qui peint un sujet, les grands peintres qui peignent le Louis XIV ou le roi d'Espagne, etc. Leur fonction, c'est d'être fidèles, c'est d'imiter. Mais évidemment, pour imiter, ils ont besoin de couleurs, ils ont besoin d'instruments, et c'est avec ça que, si vous voulez, c'est à partir de ça qu'ils sont créateurs. Alors, j'ai voulu partir peut-être de ce qui, pour nous, est admirablement esthétique, qui sont ces gravures, peintures rupestres de Lascaux ou de la grotte Chauvet, c'est les vieilles de 25 000 ou de 30 000 ans, et qui sont saisissantes d'authenticité et disons de fidélité et de réalisme. Et on s'est posé la question, mais qui a fait ça? Quel artiste? Ou plutôt, est-ce qu'il existait des artistes spécialisés? Peut-être pas. Est-ce que c'était pas plutôt des chamans? Et moi, j'ai pensé tout de suite que la réponse était artiste parce que chaman. Alors, comment dire, expliquer ceci? Je vais faire un détour purement personnel. Que j'ai fait du reste la dernière fois, mais je me permets de le répéter. C'est que quand j'étais jeune, et même jusqu'à un âge de 30 ans, j'aimais beaucoup faire des caricatures de mes camarades étudiants, de mes professeurs, de ma compagne, et même plus tard de mes amis. Et ce qui était frappant, c'est que ces dessins ressemblants, je les faisais de tête, c'est-à-dire sans regarder mes personnages. Et je me rendais compte que chaque fois que je voulais les copier, que je voulais faire, je regardais leur front, leur nez, que je voulais les dessiner, je ratais, je perdais la ressemblance. Alors donc, il y avait quelque chose, une puissance mimétique en moi, une mimésis, qui, en quelque sorte, me permettait de saisir la ressemblance. Et si je vais généraliser à partir de ce minuscule exemple très peu artistique, à la peinture et même au-delà, c'est-à-dire les chamans, ce que nous savons tous des chamans, c'est qu'ils savent se mettre en état de transe. Et que donc des états de transe, ils se font aider parfois en prenant des breuvages hallucinatoires, ils sont capables d'avoir des visions, ils sont capables de faire des guérisons. Mais alors, on ne peut pas dire que c'est dans un état de transe absolue, mais je dirais il y a des états de demi-transe, de petite transe, qui est celui peut-être de l'artiste. D'ailleurs, Victor Serge, qui était un romancier aussi, en disant, pour écrire, pour faire une œuvre d'art, il faut avoir à la fois de la conscience et de la transe. Et je crois que, si vous voulez, prenez le cas du peintre, le peintre, il a ce qu'on appelait l'inspiration, qui est un pas si mauvais terme, mais qui est un terme voisin de cette transe, de semi-possession, par l'être que l'on représente, qui est en vous. Et au cours de cet état-là, il peut donc réaliser avec le contrôle conscient. Mais le peintre, il va corriger, il va rectifier, C'est cette sorte de collaboration de la conscience lucide et de quelque chose qui jaillit un peu des profondeurs de l'être. D'ailleurs, je citerai tout à l'heure une phrase de Eisenstein, le grand cinéaste, justement, qui a parlé un peu de ces choses-là. Alors, donc, si vous voulez, je vais un peu, au cours de mon exposé, un peu illustrer ces idées en parlant aussi bien du romancier, du poète, de l'acteur de théâtre, de l'acteur de cinéma, etc., pour essayer d'éclairer ce sentiment étrange qui tient de la transe, qui tient de la possession. Mais c'est un peu de la demi-possession, de la mi-transe. Ce sont des états très peu élucidés, si vous voulez, par la psychologie. Mais ils sont des états, je dirais, que j'appelle second, pour simplifier, qui n'est pas l'état prosaïque normal, qui est un état, je dirais, presque poétique. Alors, cela étant dit, avant d'aller dans plus avant, je dirais que, alors je reste un peu dans la peinture, mais je peux le dire pour beaucoup d'art, la sculpture, la littérature. Il y a deux pôles. Il y a le pôle que l'on appelle réaliste, où l'œuvre essaye d'être fidèle à la réalité qu'elle exprime, qu'elle veut traduire. Et l'autre, mais plutôt libère l'imaginaire, l'imagination, la fantaisie, le fantastique, etc. Ces deux pôles peuvent se combiner, mais enfin, souvent, ils sont très, très distincts. Alors, il y a quelque chose que j'avais remarqué dans le travail que j'avais fait sur le cinéma, sur l'image, et déjà sur l'image photographique, que j'avais fait à partir du fait que, dans l'humanité archaïque, là aussi, pour remonter comme pour le chamanisme, que dans l'humanité archaïque, il y avait la présence en chacun de son double. C'est-à-dire que, aussi bien son ombre que son reflet dans l'eau, évidemment, il n'avait pas de miroir, mais enfin, s'il y avait un miroir, c'est chaud encore mieux, témoignait de la présence de ce double, et de ce double en plus, c'est lui qui agit pendant le sommeil. Donc, chacun a son double, et ce que j'avais fait aussi dans mon livre sur la mort, qui précède mon livre sur le cinéma, c'est que au moment de la mort, le corps se décompose, mais le spectre qui est non physique, le corps, l'être spectral, le double, survit. Et il survit, on va continuer à l'honorer, il peut rester dans le voisinage. Et encore, vous savez, même les grandes civilisations ont continué à honorer dans les cultes familiaux, en Chine par exemple, les ancêtres, les anciens, les morts. Et vous savez aussi cette croyance qui était déjà présente chez les Grecs de l'Antiquité et qu'on retrouve dans notre Toussaint, c'est en grec, les antestéries, c'est-à-dire il y a un jour de l'année où les morts reviennent parmi les vivants, il faut les fêter, les célébrer. Encore aujourd'hui en Bretagne, c'est une coutume très, très présente, on va sur les tombes, on mange, etc. Donc, si vous voulez, l'idée du double. Et ce que j'ai cru retenir, c'est que nous sommes sensibles, dans la photographie, par exemple, à un charme spécial qui est pourtant, bien que la photographie n'a pas de chair, n'a pas de matière pratiquement, n'a pas de vie, eh bien, nous sentons qu'elle a sa vie propre, son charme, surtout nos êtres chers, nous avons leurs photos sur nous. La photo, autrement dit, il y a dans le reflet du réel quelque chose de moins, la réalité physique, et quelque chose de plus, c'est-à-dire un aura, un je ne sais quoi, d'affectif, de sentimental, et qui est présent. Et alors, je pense que dans les arts qui se sont développés à partir de la photographie, et surtout la photographie animée et du cinéma, ce sont des arts qui ont déployé cette magie du dédoublement. Voilà. Alors, cela étant dit, je reviens donc à cette à l'auteur que d'ailleurs vous savez qu'aujourd'hui, enfin disons à l'époque de Molière, de Racine, de Corneille, l'auteur n'était pas le créateur de son matériau, il le puisait dans le théâtre antique, La Fontaine puisait dans les fables d'Ésope. Or, l'auteur moderne est de plus en plus quelqu'un qui doit créer son matériau, qui doit être souverain de sa propre œuvre, et l'article devient autonome, créateur, inspiré, et qu'il aspire évidemment au génie. Et donc, dans tous ces mots, génie, inspiration, on peut trouver la volonté d'exprimer ce je ne sais quoi qui vient de cette capacité mimétique de demi-transe qui se trouve inscrite en chacun de nous, mais que va pouvoir exprimer ceux qui ont hérité de ce don post-chamanique. Alors, prenons le roman. Donc, le roman, là aussi, il y a deux pôles. Il y a le roman magique, le roman, il y a Julien Gracq, et puis il y a Balzac. Et donc, dans ce roman, il y a quelque chose, effectivement, de magique. Mais ce qui est le plus important, c'est la capacité qu'ont les romanciers, qu'on dit de génie, de faire sortir de leur esprit comme des ectoplasmes qui sortiraient de leur tête, de leur cerveau, de faire sortir tout un monde, toute une société, des personnages, des événements, mixte de réel et d'imaginaire, mais où l'imaginaire ressuscite sans arrêt le réel. Et dans ce processus, nombreux sont les romanciers qui disent « Ah oui, mes personnages, ils deviennent autonomes, ils m'imposent leur volonté. » Ils ont l'impression que ces personnages leur échappent, parfois ils récupèrent leurs personnages, mais ces personnages qui vivent pour l'écrivain, bien sûr, ils vont vivre pour le lecteur aussi. Et donc, Ce que l'on peut dire, c'est que l'œuvre n'est pas seulement le produit d'un artiste conscient. Alors, elle est analogue à l'enfant qui se fait dans le ventre de sa mère. Car nous savons tous que ce n'est pas la mère qui produit l'enfant, mais c'est la mère qui le nourrit de son sucre pour que l'enfant s'autoproduise. Et là aussi, beaucoup d'auteurs, écrivains, essayistes, enfin, moi-même, quand j'ai écrit certaines choses, j'ai l'impression que c'est mon œuvre qui elle-même m'exige de moi que je continue à travailler. C'est là son autonomie. C'est comme l'enfant qui donne des coups de pied dans le ventre de sa mère. Il y a quelque chose Et ceci d'ailleurs peut expliquer le décalage très très fréquent entre la personne de l'auteur et la qualité de son œuvre. Par exemple, l'œuvre de Chateaubriand est géniale. Chateaubriand était une sorte de grand enfant. L'œuvre de Louis-Ferdinand Céline est absolument géniale. Écrase et dépasse la personnalité de Céline. Et j'ajoute en plus que Balzac, il croyait, avec sa comédie humaine, il croyait que la société qu'il donnait à voir, il l'éclairait avec les deux flambeaux de la monarchie et de la religion. Il croyait faire une œuvre profondément politico-conservatrice. Alors que c'est Karl Marx qui, lui, a vu dans l'œuvre, très justement, dans l'œuvre de Balzac, une description juste et féroce de la société bourgeoise dans sa phase d'enrichissement et de développement. Et effectivement, Balzac ne se rendait pas compte à quel point il était celui qui faisait le tableau le plus authentique de cette société en croyant faire autre chose. Donc, dans ces cas-là, on peut dire que la source post-chamanique est présente. L'écrivain est un demi-chaman, demi-possédé, par son œuvre et par ses personnages, et ce qu'il donne à voir est évidemment visionnaire. C'est-à-dire que là aussi, c'est un mot très intéressant parce qu'il comporte une vision juste, mais quelque chose qui va en profondeur et que l'on ne voit pas dans la simple vision oculaire normale. Alors, si vous prenez maintenant la poésie. Alors là aussi, c'est assez intéressant parce que le propre de la poésie, c'est que nous avons deux branches du langage. Nous avons le langage prosaïque, qui est un langage dénotatif, qui veut précisément bien singulariser les choses dont il parle, et vous avez le langage poétique, plutôt analogique, plutôt métaphorique. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est quand je vois ce mot analogie, on voit très bien que dans le mimétisme chamanique ou post-chamanique, c'est ce qui fonctionne, c'est un processus d'analogie. C'est parce que vous avez en vous la capacité d'analogie que vous êtes capable de faire la mimétisme. Et alors, donc, dans la poésie, les mots perdent leur sens utilitaire et se combinent selon des attractions souvent étranges. Et nous nous rendons compte que les métaphores, les analogies poétiques expriment certaines réalités vécues humaines bien mieux que la prose dénotative. Et on peut dire que la poésie, qui correspond à un état second correspond à un état second. D'ailleurs, réciter la poésie, ce n'est pas lire un texte administratif. Tous ceux qui lisent de la poésie se mettent dans un état particulier. Leur voix semble s'amplifier, ils semblent possédés aussi par le poème. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la poésie essaye d'aller par les mots à ce que les mots n'arrivent pas à dire. Il y a quelque chose qui se fait aux frontières de l'esprit, c'est ce que Rimbaud appelait la voyance. Hein. Le poète se fait voyant, c'est un mot. Donc c'est une façon d'exprimer la seconde dont je parle. Et ce qui je trouve aussi très intéressant, c'est que Rimbaud lui-même avait procédé à une esthétisation de choses qui étaient jugées extrêmement vulgaires, comme les baraques foraines. Or, après Rimbaud, les surréalistes, ils ont compris que la poésie n'était pas seulement une chose de lecture, de mots, était une chose qui devait être vécue. Et ils expérimentaient la poésie, par exemple, dans le texte admirable sur le passage des panoramas, ou dans les descriptions quotidiennes, chez Tarago, chez Breton. Et en plus, il faut dire que les surréalistes ont eu ce don de comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne relevait pas la conscience lucide, et c'est pour ça qu'ils se lançaient dans ce qu'ils appelaient l'écriture automatique, c'est pour ça qu'ils se lançaient dans la description de leurs rêves. Ils avaient très bien senti qu'il y avait quelque chose qui relevait, ils n'en plaisaient pas, on ne connaissait pas les chamans, mais enfin, quelque chose, je dirais, de post-chamanique, et par là était capable de se créer en eux cet état second qui perçoit un merveilleux quotidien. Et c'était ça. Donc on peut dire que l'apport du surréalisme, et pas seulement à la poésie, mais à la conscience de ce que c'est que l'acte poétique, de ce que c'est que la source de l'inspiration, est extrêmement importante. J'en viens aussi à une forme d'art, avant d'arriver au théâtre, qui est, elle aussi, où on ne peut pas ne pas parler d'état second ou d'état de demi-transe. C'est l'art oratoire. Vous avez un orateur, un orateur politique doué, lui-même, il se commence à se monter et à se mettre à un moment donné dans un état d'inspiration véritable, dans un état d'éloquence authentique. Et là, on peut dire que il est possédé par son propre discours, ou il est possédé par ses propres idées. Des restes, il m'arrive, moi, quand je fais des conférences et que, sur des thèmes évidemment qui me sont chers, et que, hein, mais je suis possédé par les propres idées que je profère. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple de très intéressant sur le plan politique. C'était au moment de la visite du général de Gaulle, alors président de la République, au Québec. Et vous savez, à ce moment-là, les indépendantistes québécois voulaient le Québec libre, et de Gaulle était bien décidé à ne pas entrer dans ce domaine-là, très délicat diplomatiquement. Mais voilà qu'il ait fait un voyage en voiture de Québec à Montréal, en traversant des villages au nom français, salués par des foules absolument délirantes d'enthousiasme. Et il arrive à la mairie de Montréal. Moi, j'étais parmi la foule qui était en bas de cette mairie, etc. Et enthousiasme délirant de cette foule. Et De Gaulle n'a pas pu s'empêcher de dire ce qu'il avait décidé de ne pas dire. Vive le Québec libre, ce qui a provoqué évidemment un véritable délire. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant qu'à un moment donné, dans l'enthousiasme et de la parole, quelque chose nous échappe qu'on ne voulait pas dire, mais qui est peut-être le plus important de ce qu'on avait envie de dire. Alors, voyons le théâtre. Je suis obligé de passer très rapidement, mais ce sont des préliminaires que je vous fais là. Voyons, le théâtre, d'abord, c'est l'héritier d'un art cérémoniel. Le théâtre grec, avec des masques, des chœurs, et comme il était aussi l'héritier des mystères médiévaux, il a quelque chose de gardé d'une représentation sacrée. Et quand on sait que en grec, enfin, l'origine du théâtre, c'est la tragédie, et que la tragédie a quelque chose d'immolation, de mise à mort, notamment des personnages et des héros. Ceci, d'ailleurs, me donne l'idée tout de suite de parler de la relation entre certains arts et la mort. Notamment le théâtre, évidemment, Shakespeare, les Élisabéthains, le théâtre romantique, mais aussi, alors, évidemment, le cinéma, où il y a une tragédie de la mort, mais parlons aussi de ces formes de théâtre antiques, qui étaient les jeux de cirque, qui étaient des spectacles de mort. Et aujourd'hui, vous savez aussi que la tauromachie qui subsiste en Espagne est quelque chose qui est, disons, lié à un rite d'immolation et de mise à mort. Alors, bien entendu, les trières, les westerns, tous les films de guerre, etc., bon, c'est quelque chose qui nous permet de vivre la mort, mais intensément, mais en même temps de façon inoffensive, c'est-à-dire que nous sommes tranquilles sur nos fauteuils. Et alors, ça me rappelle ces beaux vers de Victor Hugo, que vous connaissez, qui dit « La mort et la beauté sont deux choses profondes qui contiennent tant d'ombre et d'azur qu'on dirait, deux sœurs également terribles et fécondes, ayant la même énigme et le même secret. » Donc, voilà, là aussi, nous allons à des racines qui nous mettent dans cet état anormal, non prosaïque, un état extrêmement violent, mais où en quelque sorte se passe ce phénomène étrange que Aristote appelait la catharsis, c'est-à-dire la purification des passions, qui n'est peut-être c'est pas le terme exact, mais il se passe en nous quelque chose qui, à la fois, nous émeut profondément et nous libère en disant ben nous, on est quand même dans notre fauteuil, ce n'est pas nous. Et alors, on voit que le cinéma nous éclaire sur une situation particulière, typique. C'est la situation du spectateur de film. Alors, cette situation, elle est dans une salle que l'on va rendre obscure. Elle se produit dans un climat qu'on dit semi-hypnotique et dans lequel, effectivement, nous aurons scénarisé le film. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que tout en voyant des scènes terribles qui sont à la limite insupportables, si on les pense à la réalité, nous les vivons intensément, nous souffrons, nous pleurons, nous sommes angoissés. Et en même temps, nous savons que nous sommes au cinéma. Il y a une deuxième conscience présente en nous. Et ce qui est curieux dans cette situation esthétique, c'est que nous sommes capables de rire, de pleurer, de sangloter, d'être émus, d'aimer, d'adorer, mais sans en payer les conséquences concrètes, c'est-à-dire en étant quand même dans cet état, la conscience qu'on est quand même en dehors, que tout ça, c'est de la fiction, bien que nous le vivons comme quelque chose de réel. Donc c'est quand même la complexité de l'âme humaine, de l'esprit humain, de vivre ces deux sentiments juxtaposés et surtout de trouver un plaisir esthétique dans une situation de douleur, mais sans que soit annulée la douleur, puisque nous la vivons aussi. Nous sommes capables d'avoir une jouissance au fait de... Et d'ailleurs, je peux donner l'exemple aussi, un exemple musical qui exprime bien ça. C'est le deuxième mouvement, l'adagio du quintet de Schubert. Or, vous savez que Schubert était extrêmement malheureux. Il souffrait moralement énormément. Et ce deuxième mouvement exprime une douleur extrêmement poignante et qui nous fait venir les larmes aux yeux. Et pourtant, il nous rend cette douleur en nous donnant en plus un plaisir esthétique, une émotion, une jouissance esthétique. Nous sommes capables. Et cette jouissance esthétique ne supprime pas la douleur, non. Elle la rend visible, elle la rend sensible. Et dans le fond, il y a cette sorte de dualité dans l'esthétique, c'est-à-dire nous sommes capables de participer. Et d'ailleurs, pour revenir au cinéma, nous sommes, alors, contrairement à ce que disaient très souvent les intellectuels qui disaient que le spectateur est dans un état d'aliénation, dont ce caractère semi-hypnotique fait qu'il peut lui faire avaler n'importe quoi et que par là même il perd la conscience lucide. Or, ce qui se passe souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire que la participation au personnage, l'identification et projection, ce rapport extraordinaire que nous avons avec l'héros du film, fait que nous sommes beaucoup plus compréhensifs d'autrui au cinéma que dans la vie normale. Parce que prenez Corleone, le parrain qui était interprété aussi bien par Brando dans le rôle du père et par ce personnage central qui est un criminel, mais en même temps nous voyons qu'il a des sentiments humains, qu'il aime, qu'il a des sentiments de famille, des sentiments de fraternité, d'honneur, tout en étant capable des pires lâchetés, des pires trahisons. Eh bien, nous sentons tout à fait ce que Hegel disait. Hegel disait, si j'appelle criminel quelqu'un qui a fait un crime, je réduis toute sa personnalité à ce seul crime et j'oublie tout le reste. Là, nous voyons tout. D'ailleurs, nous voyons des vagabonds, nous voyons des prisonniers qui ont commis des délits ou des crimes, mais nous sympathisons avec eux parce qu'ils sont, nous sentons le malheur d'être emprisonnés. Nous sympathisons avec ce vagabond sublime qu'interprète Charlie Chaplin, alors que les vrais vagabonds dans la rue, on ne les regarde pas, on s'en détourne. Donc nous sommes beaucoup plus humains, nous sommes meilleurs. Et je peux élargir cette idée qui n'est pas seulement au cinéma, qui est aussi quand nous voyons Shakespeare, qui est aussi quand nous voyons, quand nous lisons Crime et Châtiment de Dostoïevski, quand nous lisons, nous voyons que nous sommes beaucoup plus compréhensifs. Et alors, disons la merveille de l'art, donc de la culture, la merveille de l'art, c'est de pouvoir nous rendre plus humains, moins fermés, moins égocentriques, plus compréhensifs, plus complexes. Mais malheureusement, ça ne dure que le temps d'une représentation, et nous redevenons égoïstes, égocentriques, fermés, pleins de, avec tous nos préjugés ethniques, raciaux, sociaux. Nous les retrouvons à la sortie, nous les oublions. Et je crois qu'un des grands problèmes de la culture, c'est comment faire pour que reste durable cette humanisation que nous avons au moment où nous sommes au théâtre, au cinéma, où nous lisons le roman, comment la rendre, la renseigner. Alors, ça peut arriver, oui, dans l'adolescence. Pourquoi ? Parce que dans l'adolescence, surtout quand l'adolescent recherche ses vérités à travers le cinéma ou à travers le livre, ce qui fait mon cas d'ailleurs, il peut trouver à ce moment-là la révélation de ce qu'il cherchait sans savoir ce qu'il cherchait et a trouvé. Et là-dessus, il lit l'œuvre qui le marque, va le marquer pour la vie et va garder peut-être toute sa vie quelque chose qu'il a gagné à ses lectures. Je pense que, par exemple, pour donner le cas de Dostoïevski, mais ça peut être complanté par d'autres et par des expériences vécues, je crois que Dostoïevski donne à celui qui entre dans son œuvre un sentiment de répulsion et d'horreur pour l'humiliation. Et c'est peut-être une des choses les plus fortes chez Dostoïevski. C'est l'humiliation, nous faire comprendre à quel point c'est tragique d'humilier autrui. Alors voilà, ceci est une parenthèse. Je reste quand même au théâtre, et peut-être même je vais terminer sur le théâtre cette fois-ci. C'est que la question du comédien. Alors, vous avez les deux versions. Vous avez la version, disons, normale. Le comédien qui dit, ben moi, j'entre dans mon personnage. Il pourrait dire aussi, mon personnage entre en moi. Là, c'est un phénomène typique de demi-possession. N'est-ce pas ? Ça, c'est... Mais il y a la version Diderot et Brecht. Alors, la version Diderot, c'est de dire le comédien, il ne doit pas se laisser passivement posséder par un personnage, il doit lui-même le maîtriser, le contrôler. Et la version de Bertolt Brecht, vous la connaissez aussi, lui, il veut que le comédien soit un récitant, c'est-à-dire pour éviter ce qui pour lui était un mal affreux, c'est-à-dire l'identification du spectateur avec le personnage, avec les personnages, il leur demandait d'être en quelque sorte des récitants quasi neutres. Et du reste, on retrouve cette même chose chez Bresson, par exemple, au cinéma, ou chez d'autres cinéastes qui croient que c'est bon que les acteurs ne soient pas possédés par leurs personnages, mais manifeste une certaine distanciation. Mais le cas le plus normal, le plus évident, est ce phénomène de la demi-possession. Et là aussi, nous avons peut-être un élément, un chaînon entre les phénomènes de possession et le théâtre. Vous avez... C'est Michel Léris qui a fait une étude sur une troupe théâtrale, mais jouant en même temps une sorte de mystère à caractère religieux. Et il avait détecté ce qu'il avait appelé lui-même la demi-possession chez la troupe de je ne sais plus quelle, une troupe somalienne. Mais alors là, là aussi, qu'est-ce que c'est la possession ? Alors ceux que, qui ont pratiqué un peu le candomblé ou la macumba, c'est-à-dire ce rite brésilien. Vous savez que au Brésil, notamment à Salvador, enfin dans la région du Nord-Est, les Africains, les Yarouas, ont apporté leurs croyances, et leurs croyances en des génies, en des sortes de dieux qu'on appelle les orichas. Et ils ont créé une cérémonie, comme le candomblé, qui est un mixte entre la cérémonie catholique et leur propre cérémonie. C'est-à-dire que la messe du candomblé commence comme une messe chrétienne, catholique. C'est le stade préliminaire. Et à un moment donné, on appelle les orichas, notamment les échous. Échous, c'est un dieu, c'est un orisha très, très malin que les gens aiment beaucoup. Et alors, on appelle. Alors, il y a bien entendu, on danse, on trépigne, les tambours battent, les gens crient, et l'on voit les premières possessions, c'est-à-dire à un moment donné, une personne, une femme ou un homme, brusquement est révulsé, et ce n'est plus sa voix, c'est l'orisha qui parle par sa bouche. Et c'est, quand une cérémonie est pleinement efficace, effectivement, les orichas se sont incarnés et à travers ces personnages et ont parlé. Donc, si vous voulez, alors, dans le vaudou haïtien, etc., vous avez ces phénomènes de possession, mais l'on peut dire que nous-mêmes, nous sommes le problème du théâtre. Au cinéma, c'est plus difficile parce que souvent, les réalisateurs coupent les scènes comme ça en petits bouts et ne donnent pas le temps d'être vraiment possédés, encore que les grands acteurs finissent par l'être. Alors là aussi me vient à l'idée, dans ce même domaine, de ce que, dans le flamenco, on appelle le duende. Alors, ça se passe dans le flamenco, mais ça peut se passer aussi pour un orateur quelconque. Il commence d'une façon un peu. Il n'est pas encore. L'inspiration ne vient pas toute seule. Le feu sacré ne vient pas toute seule. Il faut attendre un certain temps. Et le cantaor, le chanteur de flamenco, du canto rondo ou du chant profond, ou bien la danseuse, il commence à chanter ou à danser. Bon, c'est pas mal, ils font ce qu'il faut, mais le duende n'est pas arrivé. Et à un moment donné, on sent que ça y est, la possession arrive, c'est le duende. Et à ce moment-là, tout est transfiguré. Et bien entendu, c'est pas seulement le chanteur, la danseuse, mais c'est nous aussi qui sommes transfigurés, qui sommes pénétrés par cet enthousiasme. Et donc, voici c'est. Et alors, ignorer, et je vais terminer aujourd'hui, et je terminerai mon exposé là, dans ma troisième conférence, mais ce que je voudrais dire au terminer, c'est que il me frappe beaucoup que, d'abord, nous, notre psychologie classique, il sait très bien que nous sommes dans différents états. Nous ne sommes pas les mêmes dans la colère, nous ne sommes pas les mêmes dans l'amour, nous ne sommes pas les mêmes dans l'amitié. Enfin, mais elle a ignoré ces états qui peuvent être rapprochés par différents biais, puisque je peux dire tantôt le mot trans, tantôt le mot possession, tantôt le mot inspiration. Des états poétiques, à la limite du mystique, mais qui ne sont pas de mysticisme religieux. Ce sont ces états et d'enthousiasme aussi, et surtout l'enthousiasme vieillit chez les spectateurs et chez l'auditeur. Et le mot enthousiasme, c'est un très beau mot qui veut dire être possédé par un dieu. L'enthousiasme. Et là, nous, quand nous sommes, après un concert sublime, nous sommes nous-mêmes dans l'état de possession. J'ai dernièrement vu à la vidéo un concert donné à la Philharmonique de Berlin par l'orchestre des jeunes Vénézuéliens, ces jeunes Vénézuéliens qui ont créé, enfin, enfants des favelles, enfants des bidonvilles, que grâce à Abreu sont devenus des musiciens d'orchestre symphonique, et où il y a eu différents orchestres, mais évidemment le premier grand orchestre, et d'ailleurs qui a donné ce chef d'orchestre fameux Doudamel. Bon, il y avait cet orchestre des jeunes musiciens, garçons et filles, dont des gamins plus petits que leur trombone, et d'autres déjà, dirigé par Sir Rattle, c'est-à-dire le chef d'orchestre officiel de la Philharmonie de Berlin, dirigeant la première symphonie de Mahler. C'était quelque chose, non seulement cet orchestre avait atteint une unité, une homogénéité dans la diversité, une beauté, et qui a duré pendant tous les mouvements, c'est une très longue symphonie, mais il fallait voir comment, à la fin, l'enthousiasme a déferlé sur les spectateurs, sur Rattle lui-même, qui était emballé par cette orchestre, sur les musiciens qui sont embrassés. Ça a été une des plus belles réussites, je crois, de l'art. Et je vous parlerai de la musique la prochaine fois. Voilà, je m'arrête ici pour pouvoir répondre aux quelques questions que vous voudrez bien me poser.
Eh bien, merci, Edgar. Et on ouvre les... Et on peut ouvrir une discussion. Je te donne peut-être un petit peu d'eau.
Merci.
J'en ai mis la fête aussi. Ça te note. Bien. Qui souhaite intervenir, poser une question?
Bonjour.
Moi, qui demande la parole?
C'est moi.
Ici, pardon.
Bonjour, merci. En fait, je ne sais pas, la réflexion que vous aviez sur le fait que finalement, on sent quelque chose, on s'ouvre de manière empathique à l'autre pendant le moment où on est pris par l'œuvre artistique.
Tu diras parce que je n'entends pas bien, tout à l'heure, peut-être terminer.
D'accord. Et en fait... comme ça, il s'arrête peu à peu à partir du moment où on s'éloigne et que ce serait seulement à des moments cruciaux comme l'adolescence ou des choses comme ça qu'on pourrait être touché. Ça m'a interpellée et je me demandais si vous aviez des réponses sur, au fond, pourquoi on retourne très vite à la réalité. Enfin, je ne sais pas, ça peut être un peu naïf, mais je ne sais pas. Ça m'a donné envie d'élaborer là-dessus. Voilà, je vous remercie.
Alors, il y a, on s'ouvre à l'autre à certains moments, un moment artistique, et puis l'autre s'éloigne, on s'éloigne. Ce moment crucial s'en va. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des moments particuliers ou singuliers? Hein, c'est ça votre question. Hein?
Pourquoi il y a des moments? Mais c'est que nous sommes des êtres extrêmement complexes, c'est-à-dire nous avons une multiplicité dans notre unité. Et on peut dire que les moments peuvent être déclenchés par quelque chose d'extérieur ou par quelque chose d'intérieur. Soudain, le vol d'un papillon va me mettre dans un état poétique alors que j'étais dans des considérations extrêmement prosaïques. C'est-à-dire que là aussi, nous ne sommes pas assez attentifs aux phénomènes de météorologie intérieure qui sont en nous. Nous sommes surtout sensibles aux états extrêmes, la colère, l'admiration, l'amour, etc. Mais je crois que nous n'avons pas assez remarqué cet état très difficile à définir, puisque tantôt je dis qu'il est un état second, il a un caractère poétique, il a un caractère un peu magique, il a quelque chose de la transe, il a quelque chose, il peut aller jusqu'à presque l'extase, parce que finalement l'accomplissement de tous ces, eh bien, nous avons par exemple une fête réussie déclenche tout à fait en nous cet état second. Là, nous dansons, nous chantons, nous buvons, nous sommes dans cet état de semi-transe et parfois presque de transe. Et dans le fond, c'est cet état poétique auquel, dans le fond, nous aspirons tous. Mais il ne dépend pas de nous de pouvoir les susciter volontairement. Mais par contre, nous devons essayer de mieux les repérer en nous-mêmes et de mieux les comprendre en nous-mêmes.
Moi, j'ai une question à poser à Edgar. Tu ne nous as rien dit de la drogue.
Oui.
Parce qu'après tout, la drogue, c'est souvent ce qui fait passer, justement, dans cet état. Oui. Mais de là à parler de créativité, de là à parler d'art, il y a peut-être un pas. Et donc, voilà, j'aurais aimé que tu introduises ce thème de la drogue et des substances diverses.
Tu as tout à fait raison. Bon. Tout d'abord, il n'y a pas la drogue, il y a les drogues. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, les chamans, ils prennent un breuvage spécial qui les met dans cet état. Bon, il y a aussi le champignon, le peyote, qui lui-même est de nature hallucinogène, etc. Mais il est quand même intéressant de voir que Balzac se droguait au café. Enfin, je veux dire, c'est pas, le café n'est pas classé parmi les drogues, mais l'usage énorme qu'il en faisait. J'ai connu des écrivains qui prenaient de la cocaïne pour se mettre en cet état, justement, de créativité. Et, non, ce qu'il y a, c'est que, dans le fond, on peut dire que la recherche de l'extase est une des recherches les plus motivantes de l'être humain. Il peut la trouver dans la fusion amoureuse, dans l'union amoureuse. Il la trouve dans l'union mystique du croyant. Il le trouve dans le comble de la fête. Mais je dois dire que les drogues sont des moyens artificiels et qui conduisent. Alors, par exemple, si on prend l'héroïne, ça conduit à un état de béatitude passive. Et donc, si on voit que l'usage incontrôlé de ce qu'on appelle les drogues, d'ailleurs, tu sais que la coupure épistémologique est arbitraire entre l'alcool, le tabac d'un côté, et la marijuana, la coca de l'autre. Mais enfin, disons, de toute façon, l'alcool, c'est un excitant, c'est un pouce à l'extase comme un pouce au crime. Enfin, non. Dans le fond, l'humanité a toujours utilisé des moyens pour trouver cet état second. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, le créateur, lui, utilise ceci pour son œuvre et produit son œuvre. Ça devient producteur et non pas un usage purement passif. Ou bien on peut dire que la fête elle-même s'autoproduit elle-même dans sa jouissance, et puis c'est pareil. Mais sinon, ce qui est très justement nocif, c'est que c'est l'addiction. C'est que, dans le fond, ce ne sont pas les drogues qui sont mauvaises en elles-mêmes, c'est l'addiction qui est mauvaise. Parce qu'on est l'esclave d'un besoin, et ça, ça existe, c'est surtout grave pour l'héroïne, mais ça vient un peu pour toutes les choses. Ouais.
Qui souhaite intervenir ?
Ah, pardon.
Pardon. Merci à Michel Duvorquet d'avoir fait passer le joint parmi nous. Juste vous demander, monsieur Morin, dans la description que vous nous donnez, donc, on comprend tout cet humanisme qui est derrière, et donc, au fond, toute votre approche est basée essentiellement sur l'émotion. Vous parlez de possession et que vous faites des va-et-vient entre ce qu'était, en gros, la religiosité ou des formes de sacré, etc. Mais est-ce que, de nos jours, comment vous appréhendez ce qui devient purement raison, le froid, en quelque sorte ? C'est-à-dire, y compris dans les œuvres d'art, ce qu'est le minimalisme, ce que sont les musiques électroniques contemporaines, digitales ou d'autres, ou ce que peuvent être des écritures, par exemple Soler, son bouquin sans aucune ponctuation. Enfin, vous voyez, des phénomènes où on peut difficilement se projeter comme vous l'imaginez, donc, enfin, comme vous le présentez pour d'autres œuvres plus classiques, entre guillemets. Donc, quelle est votre approche de cette espèce de modernité située dans le temps, sans plus, mais comment la combinez-vous avec la primauté de l'émotion que vous avez défendue ?
Ah, tu peux le dire. Alors, comment tu te combines avec la primauté de l'émotion, s'il s'agit de la musique ou la littérature minimaliste, s'il s'agit des choses froides, de tout ce qui est très froid. Et ce monsieur a cité un livre de Philippe Solers où il n'y a pas du tout de ponctuation, par exemple.
Oui. Ben, vous savez, ça, ce sont des trucs comme l'absence de ponctuation qui sont faits pour donner l'impression d'une fluidité absolue. Alors, moi, ce que je crois, en tout cas, c'est que vous parlez des arts froids. Bon, en tout cas, la musique, c'est le contraire. C'est quelque chose de très chaud et de très émotionnel. Mais ce sont des choses qui vous donnent des sentiments et des émotions esthétiques minimales. Par exemple, Duchamp. Il y en a là-haut. Il y en a qui disent « Ah, c'est formidable, parce que c'est quelle originalité, quelle invention, ceci n'est pas une pipe. » D'autres, ils s'en foutent complètement, je veux dire qu'on n'est pas... Là, on peut dire que, dans le fond, chacun a ses critères esthétiques propres, qui ne sont pas tellement décrits, sauf chez les gens qui sont un peu snobs, évidemment, qui sont des critères de leur culture, de leur milieu, mais chacun a ses critères de ce qui lui donne cette émotion. Mais dans le fond, dans l'esthétisation généralisée, on peut trouver du plaisir à du design industriel. Quand vous avez un fauteuil de dentiste qui est designé, etc., vous pouvez trouver un certain sentiment agréable que vous perdez dès qu'il vous arrache la dent. Mais enfin, je pense que, si vous voulez, ce dont vous parlez, c'est une chose dont je vais parler aussi la prochaine fois, c'est ce phénomène d'esthétisation où on baigne peut-être dans des sentiments où tout est esthétisé et n'a plus guère d'importance. Depuis le paquet cadeau jusqu'au coffre dans lequel on vous donne les choses. Mais là, moi, je me réfère surtout aux formes d'art qui vous donnent les grandes émotions, les grands sentiments, et en même temps les grandes idées, parce que je viendrai tout à l'heure sur le rôle de la pensée, dans tout ce, y compris dans la musique et dans les arts.
Je vais prolonger peut-être, ou en tout cas partir de ce que disait ce monsieur. En t'écoutant tout à l'heure, je pensais à la musique de Bach. C'est une musique que moi je trouve très construite, très rationnelle. Oui. Je ne dirais pas qu'elle est froide, mais enfin, ce n'est pas Schubert dont tu parlais tout à l'heure. C'est quand même beaucoup plus froid, et pourtant, ça peut me toucher au moins autant. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait que le froid, je peux dire, puisse toucher autant que le chaud? Je le dis peut-être un peu maladroitement.
Oui. Alors, ce qu'il y a chez Bach, c'est l'importance du caractère réitératif de la chose, et aussi dans la fugue, aussi de la maladie qui se court après elle-même. Il y a, disons, une sobriété, effectivement, chez Bach, mais il y a quand même un sentiment profond qu'exprime les cantates, d'ailleurs, qui elles-mêmes ont des thèmes religieux. Hein. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qu'a apporté la musique romantique. La musique romantique a apporté quelque chose de tumultueux, de passionné, avec des ruptures, des élans, des remords, des rejets, que l'on ne trouve pas du tout dans la musique tellement bien ordonnée. Mais je crois qu'une grande émotion vient aussi de la répétition. Le côté répétition, d'ailleurs, il y a beaucoup de chants populaires qui sont la répétition toujours du même couplet, etc. Et il y a un côté finalement hallucinant dans la répétition, et enfin en tout cas, on est tout à fait saisi. Bon, alors, bon, du reste, il y a des gens qui sont plus émus par Bach que par Beethoven, ce qui prouve quand même que c'est une source d'émotion que dans cette perfection classique.
Alors, oui, bien sûr. Alors, attendez, il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Alors, monsieur, puis après on ira dans cette partie-là de la salle, monsieur et monsieur.
Oui, je viens d'un département rural, à la Mayenne, à Cran. Et je suis un petit peu surpris parce que j'ai l'impression que la découverte, l'ouverture à la culture, à l'émotion, semble être étouffée. Et j'ai entendu au niveau des neurosciences un petit peu que beaucoup de gens, surtout dans un contexte actuel de peur, vraiment s'enferment et n'ont plus la capacité intellectuelle de vouloir aller vers quelque chose d'autre, être plus nuancé. Et donc tout le monde s'enferme un petit peu, je parle dans des zones où il n'y a pas une ouverture comme ça à la culture et à l'art. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous ressentiez ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas disposés à recevoir l'émotion envers la culture, surtout qu'ils ne sont maintenant plus qu'abreuvés que par l'école ou la télévision.
Alors, monsieur qui nous dit qu'il vient de la Mayenne, d'une zone rurale, et s'inquiète de voir des gens étouffés par l'école, par la télévision, et qui se ferment à la possibilité même de l'émotion. Voilà, et à la variété. Et donc voilà, il voulait avoir ton sentiment sur cette question.
Oui.
Et ces gens-là sont soumis à la peur, hein, c'est bien ça.
La peur.
La peur joue un rôle important dans cet éloignement à la beauté.
Voilà. Donc il y aurait un lien entre la peur et l'éloignement par rapport à l'émotion, hein, à l'émotion esthétique.
Je crois que c'est évident que la peur, la frayeur, voire la colère, toutes ces choses-là chassent la possibilité de l'esthétique, laquelle suppose toujours cette double conscience, c'est-à-dire une conscience qui est lucide, qui se sait qu'elle est admirative, et une conscience qui est entièrement participante. Et quand vous êtes dans la peur ou dans la colère, vous perdez la conscience lucide et vous perdez donc la double conscience. Une conscience esthétique, c'est que vous admirez et vous êtes autre, tout en participant subjectivement. Voilà. Alors, oui, la télévision. Voilà. Alors là, je dois dire que il se passait quelque chose d'intéressant. J'allais venir la prochaine fois, mais je dois le dire maintenant. C'est que il y a des arts qui se sont développés dans la télévision. Et pendant longtemps, on s'en est pas rendu compte. C'est exactement comme pour le cinéma. Pendant 30 ans, le cinéma était considéré comme un divertissement d'ilote par les intellectuels. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'il ait une dignité artistique. Or, ce n'est que maintenant qu'il y a des séries télévisées qui accèdent au statut esthétique. C'est une reconnaissance. Il y a un festival maintenant d'artistique. Or, c'est comme pour le cinéma, ça s'est développé. Il y a eu des séries télévisées, à mon avis, de grande qualité esthétique, qui existent depuis longtemps, qui étaient une minorité. Mais je donnerai. D'abord, il y a cette série extrêmement naïve, mais que je trouve très charmante, qui est des Star Trek, cette série de télévision américaine, de ce vaisseau spatial qui a différentes expériences dans les différents mondes. Il y a, à mon avis, une magnifique série brésilienne qui s'appelle Dona Beja. Et puis, il y a eu New York et District Police Blues, une très beau série américaine où on entrait aussi bien dans la vie quotidienne des policiers que dans leurs actions pour détecter, pour découvrir les criminels. Donc, et puis maintenant, il y a je pense, si vous voulez, que il y a des genres qui n'avaient qu'un statut méprisable et vulgaire, qui sont devenus reconnus. Et là aussi, je vais donner l'exemple, c'est les bandes dessinées. Moi, je me souviens que c'est dans les années, je crois, 50, que s'est créé le premier club d'amateurs de bande dessinée où il y avait Alain René, Queneau, moi-même d'ailleurs, et on s'est fait insulter dans les temps modernes parce qu'on nous accusait de pur snobisme et de faire semblant d'aimer ça, que ce n'était pas possible d'aimer les bandes dessinées. Et pourtant, on était fidèles à quelques bandes dessinées de notre enfance, mais surtout, l'art des bandes dessinées s'est développé de façon extraordinaire avec son festival à Angoulême. Et là, maintenant, vous avez des grandes œuvres, des grands auteurs de bandes dessinées. Autrement dit, nous voyons aujourd'hui, dans ce phénomène d'esthétisation, des choses des infra-esthétiques. Alors, pour la télévision, là aussi, le problème, c'est comme de sélection. Il faut sélectionner les programmes qui sont intéressants. C'est comme les livres. Il y a des tas de livres qui sont dans l'inventaire des librairies. Il faut autant prendre des livres qui vont vous parler. Or, maintenant, aussi bien dans les documents télévisés, des documents de caractère parfois historique, que dans des séries de caractère romanesque, on voit apparaître l'art et on voit apparaître toutes les conditions de l'émotion esthétique. Alors, bien entendu, la télévision, c'est le phénomène d'addiction dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous ouvrez la télévision et vous restez dans votre vision à consommer n'importe quoi, c'est l'intoxication, c'est l'addiction. Mais sinon, il est possible aujourd'hui, surtout dans la diversité des programmes, et surtout vous avez des chaînes qui passent des films classiques, des grands films de l'histoire du cinéma. Donc là aussi, je crois qu'on ne peut plus dire la télévision comme on le disait il y a 30 ans.
Alors, je vais prendre encore les deux questions. Il y avait un monsieur tout au fond de la salle et un monsieur au premier rang. Et j'ai promis à Edgar qu'on ne dépasserait pas 8h30. Voilà, donc
on arrive à l'épuisement de l'orateur.
Et donc, il faut quand même laisser à notre orateur encore un peu de force.
Alors, vous avez parlé de la création...
On ne voit pas très bien qui parle. Ah, pardon.
Alors, c'est bon. Vous avez parlé de la création dans la beauté et l'esthétisme, mais en fait, je voulais avoir votre sentiment sur la beauté qui existe dans la nature et dans le monde scientifique. Quand on prend, par exemple, la théorie des fractales ou la théorie du chaos, est-ce que, en fait, ou là-dessus, il n'y a pas de création humaine, c'est-à-dire que la beauté de ces théories, etc., existait bien avant nous, et aussi, par exemple, la beauté de l'univers ou de notre galaxie, donc il n'y a aucune création humaine. Est-ce que ce sont des choses qui sont finalement innées? Et j'aimerais bien avoir votre réflexion là-dessus.
Donc, tu nous as parlé de la création et de la beauté, enfin de la beauté qui a quelque chose à voir avec la création humaine, mais quand on considère les théories du chaos ou les fractales ou l'univers, la beauté préexiste à l'humanité. Et donc, il faudrait avoir ton sentiment sur le fait que l'émotion, dans un cas, et je précise ce que je crois comprendre, dans un cas, l'émotion est liée à une création humaine, et dans un autre cas, elle est liée, ce que tu as dit d'ailleurs au début, à la nature.
Oui, oui, c'est que, dans le fond, je dis et je maintiens que le sentiment esthétique est un sentiment très largement partagé, profondément humain, et peut-être qu'il se fortifie et se développe dans certaines conditions historiques ou sociales. Par exemple, il est certain que au XVIIIe siècle, il a fallu que Jean-Jacques Rousseau vienne pour redonner, réveiller le sentiment de la nature chez des gens qui étaient beaucoup plus marqués par le rationalisme des Lumières. Mais la vision du ciel constellé d'étoiles est un spectacle à la fois esthétique, poétique et mystérieux. Et je pense que nous-mêmes, nous sommes... alors, la question, c'est que... aujourd'hui, la cosmologie, disons, la science de l'univers, nous disent que cet univers qui nous semble immobile avec ses étoiles est en réalité un univers en mouvement et en expansion, que ces étoiles, à un moment donné, explosent au bout de 4 milliards d'années, que des galaxies se tamponnent, que des trous noirs se forment. C'est-à-dire, mais alors, cet univers, il y a certains qui pensent qu'il reste dans sa beauté mystérieuse. Et beaucoup d'astrophysiciens aussi regardent l'émerveillement, mais devant cet univers mystérieux. Dans le fond, le chaos à quelque chose qui est génésique, qui est créateur, et on peut penser que lui-même, il offre quelque chose qui peut donner un sentiment esthétique parce que, justement, il porte en lui des potentialités créatrices. Mais je crois que nous sommes amenés à nous émerveiller devant tous les spectacles naturels. Et la question, c'est que des conditions culturelles ou sociales favorisent l'expression et la vie de nos sentiments, de notre esthétique, qui nous fait du bien. Dans le fond, je pense que être capable d'admirer, de s'émerveiller, de s'étonner, tout ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je crois que, enfin, dans ma propre philosophie, où je pense que la vie humaine est bipolarisée entre, disons, la partie prosaïque et la partie où nous faisons des choses par obligation, mais sans aucun plaisir, et la partie poétique, au contraire, où nous épanouissons, où nous communions, etc., tout ce qui est esthétique est un élément intégré et intégrant de l'aspect poétique de la vie, de cet aspect, dans le fond, qui est le plus important et qu'il faut souhaiter développer.
Alors, il y avait une dernière question qui était tout au fond de la salle.
Oui.
Vous avez le micro? Voilà, oui. C'est ce monsieur. Et après, on te libère.
Donc, vous parlez de ces moments de création ou de connexion où on est en transe ou quelque chose de magique qui nous dépasse, vous dites, nous possède, passe en nous. Quelle est cette chose imperceptible à laquelle on se connecte ou qui nous anime. Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Dieu ? Et la deuxième partie de ma question, vous dites la recherche de l'extase, c'est une des recherches les plus motivantes de l'être humain. Est-ce que c'est ça le sens de la vie ? Est-ce que c'est de chercher l'extase, peut-être pour se rapprocher de Dieu ?
Alors, deux questions. Une, tu as évoqué ces moments de création qui nous dépassent. Qu'est-ce qui anime ces moments ? Est-ce que c'est Dieu qui anime ces moments qui nous dépassent ? Et est-ce que le sens de la vie, ça peut être la recherche précisément de ces moments singuliers ?
Oui. Alors, tout d'abord, moi je ne crois pas, je suis très spinoziste, c'est-à-dire je ne crois pas en un Dieu créateur du monde. Je crois beaucoup plus qu'il y a une créativité dans la nature et surtout dans la vie. Parce que, pour quand même se demander... Regardez l'aile, hein, parce que la vie est créatrice pour répondre à des défis. Par exemple, on peut supposer que quand nos ancêtres poissons se sont trouvés devant une situation où le niveau de l'eau baissait, ils sont obligés de se trouver à terre, ils ont pu susciter des poumons à la place des branchies. Bon, il y a des cas où la créativité, c'est la réponse à un défi. Mais voler. Pourquoi voler ? Il n'y a aucune réponse. Et pourtant, il y a des insectes qui ont eu des ailes, qui ont poussé les ailes. Des reptiles sont devenus des oiseaux et sont mis à voler. Des mammifères comme les chauves-souris. Mais autrement dit, il y a eu cette créativité qui est venue pour un désir, une aspiration de voler. Mais c'est-à-dire, on trouve dans l'évolution de la vie des phénomènes de créativité qui dépassent tout ce qu'a pu faire l'humanité et la conscience humaine. Bien sûr, ça dépasse les missiles, les bombes atomiques. Pourquoi ? Parce que vous, chacun d'entre nous est une machine étonnante. On mange, il y a de la salive pour commencer à assimiler les événements. Et puis après, vous les mastiquez. Et après, ils entrent inconsciemment dans le tube digestif. Et puis, il y a les sucs gastriques. Et puis, passent par le foie. Nous sommes des machines hyper sophistiquées, d'une complexité inouïe. Nous sommes encore incapables de fabriquer la moindre bactérie. On va peut-être y arriver à faire une bactérie artificielle. Et encore. Mais donc, si vous voulez, il est certain que les spectacles de la luxuriance du monde végétal, avec la création des fleurs, par exemple, et du monde animal, est absolument inouï. En général, les biologistes, ils n'aiment pas parler de créativité parce que ça leur fait penser au créationnisme. Mais ça n'a rien à voir avec le créationnisme. Le créationnisme, c'est un dessin intelligent à religion, alors que la créativité, elle naît des forces de la vie, et cette créativité... Nous l'avons transporté, nous l'avons, nous, à un niveau humain, pas seulement dans l'art, mais dans les techniques, etc. Donc, moi, je ne vois pas, il y a cette puissance créatrice que je constate, mais sans faire le besoin d'avoir d'un dieu, parce que c'est cette puissance créatrice, elle revient sans cesse. Elle est revenue dans l'histoire des primates et l'apparition d'Homo sapiens. La deuxième question, c'est...
C'était, est-ce que le sens de la vie, ça doit être de rechercher ces moments si singuliers de créativité, d'émotion, d'extase ?
Moi, je crois que le sens de la vie, dans le fond, voilà, c'est que la vie n'a pas d'autre sens qu'elle-même. C'est-à-dire, c'est la formule... Vivre pour vivre. Mais vivre pour vivre, ce n'est pas qu'une plate tautologie. Vivre pour vivre, c'est-à-dire vivre l'intensité de la vie, c'est-à-dire ce qui permet aussi bien les communions, l'amour, la réalisation de soi. Et vivre pour vivre, c'est tout ce qui est l'expression poétique de la vie des personnes et des individus. Donc, si vous voulez, le but de la vie, et je crois que c'est l'accomplissement de la vie. Et c'est surtout, alors j'ai parlé d'état poétique, et l'état poétique est une des façons de parler de ces états seconds, et qui, plus ils sont intenses, plus, ils nous mettent dans la béatitude. La béatitude ultime étant, évidemment, l'extase dans ses différentes formes. Bon, mais on ne peut pas vivre tout le temps dans l'extase, mais je pense que nous aspirons profondément à cet état-là. Et je crois que... Mais ceci n'empêche pas que nous ayons la vie aussi nous rendre curieux de son mystère. Nous cherchons à savoir, nous cherchons à connaître. Et je pense aussi bien que la curiosité et l'amour, ce sont les deux choses qui sont les deux sens de la vie pour nous.
Ben écoutez, vive la curiosité et vive l'amour. Merci. Bien.